Bonjour Chantal.
Bonjour Violaine.
Bonjour à toutes.
Et à tous.
Bienvenue dans le nouvel épisode de Zone Vocale, une émission portant sur les enjeux politiques, intimes et artistiques de la voix.
Lors de rencontres avec des personnes qui ont fait de la voix le centre de leur existence.
Chanteuses, soignantes, poètes, poétesses.
Compositrices, penseuses, artistes sonores.
Nous proposerons un espace de partage et de réflexion sur la manière dont l'usage de la voix peut être une zone d'empowerment, c'est-à-dire de la réappropriation de sa propre puissance d'agir. Aujourd'hui, nous sommes heureuses d'accueillir Anne Le Trotteur. Bonjour Anne.
Hello.
Bonjour Anne.
Hello, hello.
Anne Le Trotteur est une artiste mêlant installation sonore, performance, littérature et poésie. Elle joue aussi de la plasticité de la langue et en particulier de la parole avec des outils de travail tels que le microphone et l'enregistreur. Depuis plus de 10 ans, elle enregistre des paroles, la sienne autant que celle des autres. Par le montage audio, elle les manipule, les désarticule, les recompose pour nous les donner à entendre dans des espaces d'exposition. Anne Le Trotteur a pu travailler avec et autour d'enquêteurs et tristes téléphoniques, d'artistes ASMR, j'essaye de traduire, Autonomous Sensory Meridian Response, des employés de banques de sperme, des prothésistes dentaires et d'artistes ayant participé à des avancées médicales notoires comme Louise Hervieux, à l'origine du carnet de santé, par exemple. Elle a pu exposer au Palais de Tokyo, au Nashers Culture Center à Dallas, au Centre Pompidou, à Béton Salon, Centre d'art et de recherche, à la POP, incubateur artistique et citoyen, au Centre d'art contemporain, le Grand Café à Saint-Nazaire, à la Fondation Pernod Ricard. En parallèle des expositions sonores mettant en jeu nos voix comme force de travail, Anne Le Trotteur cherche également à abriter les mots en les logeant dans ses vêtements à l'aide de petits speakers. Elle cherche à sentir la parole des autres, s'en habille, s'empare, s'en arme. Ses vêtements sonores sont des formats d'exposition. C'est aussi pour elle se fondre dans le groupe des parlantes, lui servir de structure, d'assise, de pied. Considérer que nous avons plusieurs bouches, c'est vouloir la communauté. Enfin, Anne Le Trotteur développe ce qu'elle nomme les morsures sonores, des sculptures à mordre pour entendre, proposant ainsi aux spectatrices une écoute consentie. Il y est notamment question de poison sonore, d'antidote, via la figure de William Brogdon, artiste et inventeur du comprimé.
Eh bien, impressionnant, Anne. Donc la voix, elle est présente partout dans ton travail, qu'elle soit enregistrée et diffusée dans des installations sonores, qu'elle soit en live dans des performances, ou encore qu'elle ait un mode d'existence à la lisière de l'écriture. On va y revenir. Alors, tu as un travail, une œuvre prolifique, on ne pourra pas aborder tous les projets, mais on va questionner la place de la voix dans ta démarche. Alors la première question qu'on a envie de te poser, c'est d'où vient cet intérêt pour la voix et à quel moment tu as commencé à te lancer dans de l'exploration vocale ?
Cet intérêt pour la voix, ça a commencé très tôt, je dirais, pendant l'enfance, dans le sens où ma mère est soignante et je l'ai vue enregistrer sa voix. Elle fait ça toute la journée. Et du coup, on était, moi et mes sœurs, à côté d'elle quand elle faisait ça. Alors c'était un peu ce truc de... nous aussi, on voulait parler dans cette boîte noire, finalement, et on voulait aussi entendre notre propre voix. Et elle nous avait donné un enregistreur à bande qui devait traîner. Et ça nous faisait carrément rire. On passait des moments à trois avec mes sœurs à s'enregistrer, à mettre à retour en arrière, à ralentir la voix, à l'accélérer. Ça nous faisait rire, en fait, d'entendre cette bande qui, avec nos voix, on n'inventait pas tellement d'histoires. C'est simplement, en fait, la joie de s'entendre, quoi. C'est comme la joie de, finalement, de se regarder dans le miroir, quoi. C'est de se voir exister aussi qui est jouissif.
Mmh. Et c'est vrai que de cette expérience de l'enregistreur de ta mère, si je ne m'abuse, tu en as fait une pièce,
ouais,
qui s'appelle De l'interprétariat, que tu avais présentée chez ce galeriste, rappelle-moi le nom.
Arnaud Deschamps.
Voilà. Ouais, ça, moi, j'avoue que ça fait partie de tes travaux qui m'ont vraiment touchée. Et c'est intéressant de voir que dès l'enfance, il y a un lien avec le monde de la santé,
ouais,
le monde du soin, qui est quelque chose de récurrent dans ton travail. Et tu évoquais aussi la présence de tes sœurs. Et ça fait partie aussi peut-être des premières pièces que tu as écrites, Claire, Anne, Laurence, qui met en jeu le code de langage de trois sœurs entre elles. Et donc, il y a quelque chose aussi quand on t'entend dire tes pièces sonores ou je sais pas si on peut les appeler tes poésies, mais il y a quelque chose de l'ordre du jeu de l'enfance et presque de l'exploration parfois du babil, du mot qui devient comme ça matière, et que ça peut faire penser aussi à une langue familière ou à la langue, c'est Lacan qui la nomme comme ça. Et tu peux revenir aussi peut-être sur cet aspect-là, peut-être de la comptine, du jeu, qui vient peut-être justement de ce milieu familial, du lien avec tes sœurs.
Eh ben, je sais pas si ça vient vraiment du. En tout cas, quand j'allume un enregistreur, enfin voilà, quand je fais un peu des pièces sonores ou quoi, souvent quand même, je fais des maquettes sonores. C'est-à-dire que je fais tout à la voix, toute seule, et après je propose aux parlantes et aux parlants d'être une des voix. Pour le coup. Donc il y a ce cas de figure là, il y en a d'autres aussi, mais voilà, c'est le cas de figure le plus sécurisé de l'enregistrement sonore pour les parlants, les parlantes et pour moi. Même si je le fais pas toujours, ça dépend en fait avec qui je suis. Et pour le coup, dans les maquettes sonores, comme c'est moi qui fais tout, c'est là aussi où je vais essayer de trouver en fait qu'est-ce que le texte raconte finalement. Parce que c'est-à-dire que j'écris, mais sans jouer à quelque chose à l'intérieur du texte ou quoi. Des fois, je dois porter un texte qui m'échappe aussi parfois. C'est-à-dire que tout ce que contient le texte, eh ben, quand on me demande en fait de l'expliquer, souvent je suis pas capable. Et de pouvoir passer en fait par l'oral, de pouvoir en fait l'oraliser, lui donner une voix, l'ancrer, savoir en fait comment placer les mots, comment est la phrase en fait, c'est une sorte de ponctuation orale qui en fait va donner le sens du texte, et qui donc c'est presque peut-être au-delà de la poésie, c'est vraiment en fait de l'ordre de la compréhension, de pouvoir comprendre en fait les mots, c'est-à-dire que de les dire, je les comprends. Et c'est ça en fait qui m'intéresse dans l'enregistrement sonore, c'est-à-dire que il y a quelque chose d'un peu de la joie en fait. C'est vrai que il y a une forme de joie de vivre dans cette espèce de course quand j'allume un enregistreur, où je cours après les mots, je cherche des idées, je suis souvent en fait, ça dépend en fait, là aussi des cas des enregistrements, mais quand je fais les maquettes, je suis seul, donc je suis sur mon lit, je suis sous ma couette, donc c'est un peu une cabane, et il y a quelque chose comme ça pour des questions acoustiques, et que je suis bien en fait là, et dans cette espèce de cabane, en tout cas, s'il y a quelque chose de l'ordre de rechercher en fait à continuer le texte, à l'écrire encore, mais autrement.
Donc si je comprends bien, tu écris d'abord les textes avant de les dire?
De plus en plus, ouais. Ça n'a pas toujours été le cas. Au début, j'étais 100% improvisation, dans le sens où j'avais des journées à l'atelier où je faisais des sculptures, et le soir, en revenant, Ben, je voulais faire une autre sculpture, sauf que j'étais pas, enfin, j'avais d'autres moyens que ceux de l'atelier, mais j'avais le moyen de l'enregistreur. Et que finalement, c'est de pouvoir parler à cet enregistreur-là, c'était une sculpture avec des mots. J'ai tout de suite, très vite, en fait, compris l'enregistrement, ma voix, ce que je pouvais faire avec, sa plasticité, que je pouvais la monter, la couper, la coller, la dupliquer 1000 fois, 100 fois, et qu'est-ce que ça fait, et qu'est-ce que ça me fait, et qu'est-ce que ça, comment est-ce que je la passe, cette voix, dans mes oreilles, très près, très loin. J'aime beaucoup, en fait, pouvoir faire circuler une voix à l'intérieur du corps, une voix VOUX, c'est-à-dire que de pouvoir, en fait, l'ancrer dans le ventre, ou l'ancrer en fait dans les pieds, ou l'ancrer dans la tête, et que ça, en fait, ça participe, je pourrais pas dire du montage, parce que c'est quand même un peu, enfin voilà, le montage c'est autre chose, peut-être, mais que ça participe quand même aussi de la compréhension du texte, parce que tout ça, en fait, c'est vraiment un truc, un peu de... J'y vais un peu à la loupe, dans le sens où j'écris un texte que... voilà, donc je tourne un peu autour du texte pour savoir en fait qu'est-ce qu'il me veut, ce texte-là, quoi, et pourquoi en fait je l'ai écrit. C'est bizarre des fois, je me dis... enfin voilà, il y a des fois où je me dis... bon, il y a des fois, c'est vraiment très, très simple, et je sais, mais c'est pas... enfin, on le sait tous que c'est pas facile d'écrire, et donc du coup, il y a des fois, en fait... bah, et ce texte m'échappe, il me saute un peu des mains, et du coup, j'essaie absolument de le rattraper. En fait, bah, je lui crie après, quoi. C'est ça, l'enregistrement sonore.
Moi, j'avais une question sur le mot sculpture, parce que pour moi, la sculpture, elle est arrêtée. Et la voix, elle est pour moi toujours en mouvement. Donc, d'où vient cette idée de parler de sculpture ?
Je crois que... Je sais pas, moi, si les enregistrements que je fais sont en mouvement. C'est-à-dire que c'est comme quand j'enregistre, et après quand il y a le montage, le mixage, là, il y a une forme finale qui est ensuite après archivée, et que là, après, je peux diffuser, et ben il y a quelque chose un peu de Je crois qu'après, j'ai plus trop envie de revenir dessus.
Elle est figée, mais...
Bah, c'est-à-dire que, par exemple, Fifi Riri Loulou, qu'on va, je crois, bien entendre plus tard, c'est une de mes premières pièces. Et en fait, j'aimerais bien la performer, cette pièce-là. Mais je crois que je peux pas, parce que l'enregistrement est mieux que moi. Et qu'il y a quelque chose comme ça de... Il y a quelque chose de très sincère dans cet enregistrement, et que je crois que je peux, je pourrais plus être cette personne que je suis quand j'enregistre Fifi Riri Loulou, et que du coup ce décalage là m'interdit cette pièce pour l'instant.
Eh bien, on va l'écouter. Riri Fifi Loulou.
C'est une clarification de la pensée par matérialisation. Fifi a une idée, ou Riri ou Loulou, peu importe. Il va mettre de l'eau dans une baignoire et en fait l'abreuvoir du cheval va remplir pas complètement la baignoire d'eau. Il va mettre de la mousse dans la baignoire, un lit de liège. Ça, c'est une clarification de la pensée. C'est une clarification de la pensée par matérialisation. Fifi, Riri ou Loulou se sert de la baignoire à abreuvoir comme une clarification de la pensée. Cette pensée est quoi que tu penses, pense à autre chose. Si la pensée est quoi que tu penses, pense à autre chose, Fifi, Riri ou Loulou, peu importe, applique cette pensée. L'un des trois pense à un cheval, cette pensée l'amène à penser à une baignoire à abreuvoir, comme on peut voir dans les champs, à la campagne, dans laquelle il va placer de l'eau, de la mousse et du liège pour la forêt. Mais on pourrait se demander si Fifi, Riri, Loulou, avec cette baignoire, cette incarnation de la pensée avec la matière, ne fait pas un amalgame entre le cheval et le loup. Le cheval, c'est l'abreuvoir, et le loup, c'est la mousse dans les bois, ou se déboit. Et c'est pas aussi simple. Fifi, Riri et Loulou disent, quoi tu penses, pense à autre chose. Si Fifi pense à un cheval, alors Riri pense à un bonnet, et Loulou pense à une selle de cheval. Si Fifi arrête de penser au bonnet, alors il va penser au cheval, il va penser au cavalier, il va penser à la carrière, il va penser à la compétition, aux obstacles, au dressage, au cheval, à l'équipement, aux bottes, à la culotte de cheval, aux éponges, à la cravache, au poil du cheval, à la brosse, à l'étrille, au bouchon, à la verrie, au piquet, il faudra monter pour le cheval. Mais s'il décide de complètement oublier le cheval, alors il va penser Riri, penser à un bonnet, c'est un petit cheval, un bonnet. S'il arrête de penser à son bonnet, il peut se dire, pour arrêter d'y penser, mais en gardant la même veine, tout est divisé par deux, comme la taille du bonnet, c'est un cheval divisé par deux. d'eux, même plus des fois. Et là, il arrête de penser. Si Riri arrête de penser poney, il va penser aux dinettes, qui sont une cuisine divisée par 10, mais non fonctionnelle. C'est l'image d'une cuisine. Mais un poney, c'est pas l'image d'un cheval. Alors Riri divise tout par deux pour éviter de penser au poney. Puisque quoi qu'on fasse, il faut penser à autre chose. Quoi qu'on fasse, faut faire autre chose. Et Loulou pense à un loup dans la forêt, qui va penser à la forêt plus qu'au loup. Dans la forêt, et du liège, et de la mousse. Comme s'il y avait une baignoire sous la forêt. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau dans la baignoire, la mousse qui pousse sur l'eau dans la baignoire, ensuite il y a le liège. Et quoi qu'on pense, faut penser à autre chose. Et quoi qu'on pense, on pense toujours à la chose auquel on vient de penser. On essaie de la développer, de lui réinjecter du sens profond. On ne peut pas partir de rien. C'est pour ça que Fifi, Riri, Loulou pensent d'autres choses en restant sur le cheval, le poney et le loup. Ils pensent pas aux animaux, mais à ce qui les entoure. Ainsi, ça leur permet de penser à toute autre chose, mais en restant dans la même veine. On ne peut pas partir de rien pour penser que les pensées s'enchaînent les unes les autres.
Voilà, c'était un extrait de Riri, Fifi, Loulou, donc enregistré avec ta propre voix. Et donc l'usage de la voix chez toi, c'est pas seulement l'usage de ta propre voix, c'est aussi l'usage de la voix des autres. Et notamment, tu as fait plusieurs pièces avec des groupes très spécifiques, des professionnels de la voix, donc avec l'appétence. Et c'est par là que je t'ai connue au Salon de Montrouge en 2016. On était dans deux stands limitrophes, on va dire. En tout cas, l'appétence, c'est une pièce que tu as créée avec des personnes qui pratiquent l'ASMR. Il y a aussi les mitoyennes et la liste à puces que tu as fait avec des personnes qui sont les membres d'un call center. Et donc, est-ce que tu pourrais revenir justement sur le passage de l'enregistrement de ta propre voix à celle des autres et comment justement tu mets ça en place aussi dans la collaboration, je crois?
Bah, le premier moment où j'ai voulu en fait tendre mon micro vers la bouche des autres, c'est pour une exposition qui s'appelle donc Les Mitoyennes à la BF15 à Lyon. Voilà, donc j'avais une exposition à la BF15 l'exposition arrivait en septembre j'étais dans l'été, et je pensais simplement, enfin, j'avais mon texte prêt, en tout cas, prêt à être enregistré par moi, monté par moi, à faire le mixage de manière simple. Et à un moment donné, je me suis rendu compte de là où j'étais. J'étais à Lyon. Et moi, j'ai vécu à Lyon, et j'étais enquêtrice téléphonique à Lyon pour payer une partie de mes études. Et là, je me suis dit, je peux quand même pas être à Lyon et ne pas, en fait, penser à celles et ceux avec qui j'ai côtoyé ce métier, qui est, en fait, le métier de la voix. Voilà. Et donc, d'un coup, j'ai un peu sauté sur mon téléphone, sauf que ça faisait des années que j'avais plus été dans un call center ou quoi. Et bref, petit à petit, j'ai retrouvé des gens que je connaissais d'avant, qui m'ont présenté des nouvelles personnes enquêteuristes téléphoniques qui ont été d'accord d'interpréter une de mes pièces. Donc du coup, s'en est suivi un travail de réécriture un peu express pour le coup, puisque j'avais pas du tout prévu de faire ça. Une phase d'enregistrement dans la BF15, donc dans le lieu même, où on a travaillé justement sur la chorale. Qu'est-ce que c'est en fait que de faire une chorale dans un call center, là où en fait on répète toutes et tous les mêmes choses pendant des heures et pendant des jours, mais de manière désynchronisée. C'est en fait ce qui aussi participe à la grande fatigue qui s'y dégage. En tout cas, c'est le brouillage en fait sonore qui existe. Dans les call centers. Et voilà, donc c'est un peu la première fois que j'ai eu envie d'enregistrer d'autres personnes. Et ensuite, s'en est suivi donc une exposition au Palais de Tokyo qui a repris la première pièce qu'on avait fait aux Mitoyennes. Donc c'est une augmentation de cette pièce sonore-là où j'ai réenregistré avec un autre call center plus proche de là où j'habitais, donc à Paris, et ensuite avec d'autres questions à l'intérieur même en fait du travail d'écriture. Donc il y avait quelque chose comme ça de revenir en fait sur une des identités que j'ai, quoi.
C'est intéressant parce que ça pose aussi la question de comment on vit aussi en tant qu'artiste quand on sort de l'école. Et là, c'est voir aussi l'arrière du décor dans ce travail-là. Et ça pose aussi jusqu'où on va, parce que dans la voix, il y aurait peut-être l'idée ou le mythe que ça serait quelque chose une des choses les plus intimes qu'on ait. Qui nous représente le plus dans notre identité. Et ici, donc, dans ces call centers, on loue sa voix, on nous achète la voix qui devient donc un outil de la firme. Enfin, on devient, c'est comme si on était colonisé depuis l'intérieur par ce discours qu'on ne fait que répéter comme un perroquet toute la journée. Et donc, c'est quelque chose que tu soulèves et qui est important pour toi parce que c'est... qui revient dans plusieurs pièces. C'est-à-dire comment le monde capitaliste vient jusqu'ici dans nos identités, quoi.
Oui, et aussi comment on résiste aussi à ça. C'est-à-dire qu'il y a il y a quelque chose un peu de... On a tous et toutes eu cette expérience de quelqu'un qui nous appelle, qui est payé pour ça, qui n'est pas ravi de le faire. Et on sent aussi cette espèce de lassitude à le faire. Mais aussi, en même temps, cette obligation. Donc, il y a quelque chose, en fait, qui se passe dans les call centers entre un super coaching où, voilà, il faut sourire au téléphone parce que ça s'entend quand on sourit. Et en même temps, la réalité du métier, c'est-à-dire que en fait, pendant 8 heures, je vais répéter la même chose, le même texte, le même texte, le même texte, le même texte. Et ça pendant un mois, deux mois, jusqu'à ce que... voilà, il y a même des enquêtes qui sont beaucoup plus longues que ça. Enfin, c'est... puis sur des trucs où finalement, il y a des choses qui sont intéressantes, mais d'autres beaucoup moins. Hein. Donc, il y a quand même... Et donc, il y a aussi comment toutes et tous, on va essayer qu'on travaille de résister en fait à cette espèce de litanie qui tape un peu la tête aussi. Et comment en fait, c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est comment la voix résiste aussi là-dedans, quoi. Comment la voix, l'identité qui nous sommes, même si, voilà, pour des questions économiques, c'est obligé, quoi. Eh ben, comment est-ce qu'on va essayer, en fait, de trouver des, malgré soi ou avec soi, des astuces pour résister à ça?
Ouais, c'est comme si le travail, il a été une sorte de zone d'empowerment. Enfin, c'est un mot un peu galvaudé, mais là où c'est comme si c'était se réapproprier quelque chose qui était suffocant dans...
C'est vraiment le mot, hein, en tout cas pour. Enfin, moi, quand j'y étais, il y a quelque chose un peu de. Voilà, on s'essouffle à dire les mêmes choses. On s'essouffle et en même temps, ça. Bon, il y a quelque chose un peu du poème, quoi, qui est en train de s'écrire autour de Danone avec 4 yaourts ou 6 yaourts ou 0 matière grasse ou des choses comme ça qui sont. Qui peuvent peut-être faire penser à des œuvres un peu de Nicolas Tardy ou des choses comme ça, enfin des gens comme ça, mais enfin voilà, c'est toujours agréable de réfléchir de cette manière-là, mais c'est je réfléchis comme ça parce qu'aussi on est là dans le cadre d'une heure enregistrée, et tandis que quand on est dans un call center, c'est beaucoup moins jouissif. Hein.
Eh bien, on va écouter un extrait des Mitoyennes, donc qui a été produit par la BF15 à Lyon.
Credete cat te cat te cat te te taget te credete te taget te credete te credete te credete te ta credete te catage digeneda credete te catage digeneda credete te catage digene cat te da da din din nananana kata kata te da
Bonjour,
Je suis Anaïs.
Bonjour, je suis Sabrina.
Je suis enquêteur téléphonique
dans un institut de sondage. J'ai été contactée cet été par une artiste à propos d'une pièce sonore en cours. Avez-vous quelques instants à m'accorder?
La pièce va durer approximativement
20-25 minutes.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Êtes-vous un homme ou une femme? Moi-même, je suis une femme.
Voilà, c'était un extrait des Mitoyennes. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas revenu là-dessus, mais en fait, ces voix-là qu'on entend par le biais de la radio, en fait, là, les Mitoyennes, elles sont mises en espace, ces voix. Mmh. Elles sont mises en espace dans des installations à une esthétique assez administrative, avec de la moquette, des chaises, et puis la diffusion sonore souvent est apparente dans tes installations. Est-ce que tu peux revenir sur la manière dont tu articules cet aspect spatial et visuel avec ces pièces sonores?
C'est assez, il y a quelque chose un peu de plus en plus dans mon travail qui moi j'ai besoin de toucher. J'ai besoin de toucher les mots, le son, comment ça passe, où ça passe. J'ai besoin de qu'il y ait une forme de sensualité entre la vibration de la parole, mon corps, les corps des spectatrices, l'espace. Voilà, j'aime bien ça. Et je crois que... du fait que, par exemple, à la BF15, il y avait des moquettes au sol, etc., c'est simplement que la BF15, avant, c'était un magasin de moquettes. Mmh. Et donc, du coup, c'est réactiver une histoire du lieu, comme j'ai réactivé une histoire de moi pour produire la pièce sonore, je réactive une histoire du lieu pour proposer une installation. Et donc, j'ai fait construire des rouleurs à moquettes, on a eu des moquettes et donc les spectateurs s'étaient invités à s'asseoir sur ces moquettes pour écouter donc la voix des enquêteuristes téléphoniques. Et donc j'avais disposé la voix de la même façon qu'on est disposé dans un call center où c'est une voix par poste, ce qu'on appelle des postes, donc c'est des lignes et des lignes de voix quoi finalement. Et voilà, en tout cas. Donc, c'est aussi ce qui donne la spatialisation. Après, moi, j'ai la chance de travailler pour la spatialisation souvent avec Guillaume Couturier, qui est donc ingénieur sonore avec qui je travaille souvent. Et c'est vrai qu'on s'entend bien aussi pour toutes ces questions de spatialisation, qui sont en fait des zones, en tout cas, de la voix à trouver. Comment est-ce qu'on va arriver à proposer l'écoute, en tout cas dans ces zones qui sont vides aussi. Et c'est pas simple, en tout cas pour celles et ceux qui souhaitent écouter, de trouver une place parmi ces voix. C'est dur. C'est pour ça aussi que l'installation, je trouve, m'intéresse, et qu'il y a quelque chose d'une équation qui est délicate. Et que dans cette délicatesse, ça m'intéresse. Je dis pas que je réussis, je dis que, en tout cas, que cette formule est au travail. Mmh.
Toujours donc dans des installations, il y a donc les volontaires pigments médicaments. Donc c'est une exposition qui était récente à Béton Salon, dont la curatrice c'est Émilie Renard, qui est quelqu'un d'assez formidable. Et donc, les volontaires pigments médicaments, c'est en fait une sorte de mise en voix du fond photographique Marc Vaux. Donc, tu le traites comme s'il s'agissait d'une vaste archive sonore peuplée de voix d'artistes. Et tu questionnes les conditions matérielles de leur vie de travailleurs, travailleuses de l'art. Et tu t'intéresses à des personnes qui étaient militantes, qui ont fait des choses assez incroyables, comme Marie Vassiliev, qui a créé la cantine populaire pour artistes et modèles, ou Louise Hervieux, l'association pour le carnet de santé. Et tu invoques ces morts, ou en tout cas, tu fais incarner la voix de ces morts, ou tu inventes la voix de ces défunts artistes par des artistes contemporains. On ne pourra pas tous les citer, mais notamment Noura Vahda, Martine Baquero, Eva Berthaud, Agathe Boulanger, Simon Niquez, donc qui viennent, voilà, et ça crée une sorte de transgénération de travailleuses de l'art. Donc là aussi, il y a un intérêt fort donc porté à la question du soin et aussi du monde de l'art, c'est-à-dire comment en fait on vit, quoi. C'est ça que tu soulèves, parce qu'en fait, c'est un peu comme dans la même démarche que les Mitoyennes, peut-être, c'est d'aller voir ce qui se passe dans l'arrière du décor.
Je crois que au tout début de cette histoire, c'est vraiment en fait cette figure de Louise Hervieux qui m'a un peu fasciné cette femme qui est donc née avec la syphilis, qui était vraiment en souffrance, quoi, et donc qui a cherché une traçabilité du corps. Et j'aimais bien cette démarche-là qu'elle avait, de, plutôt que d'aller voir tout de suite les autorités compétentes, de faire ça avec des artistes. Et pour le coup, donc, c'est la réunion d'un groupe d'artistes dans l'atelier d'Edouard McAvoy, où donc Louise Hervieux invite des artistes à parler en fait, de qu'est-ce que ça pourrait être qu'une traçabilité du corps.
Tu peux peut-être citer la période, parce que ça donne les...
C'est avant la Première Guerre mondiale.
Mm-hmm.
Je crois, je suis plus sûr. Ça. Et en tout cas, le carnet de santé est sorti après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, du coup, il n'y a pas eu de trace de cette réunion dans un atelier d'artistes et de cette discussion qui s'est tenue. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir faire une sorte de reconstitution évitée, parce que dans le sens où. Ou forcément que je vais parler beaucoup plus de mon contemporain que finalement de ce que je connais pas, cette histoire-là finalement. Donc je me documente beaucoup, mais mine de rien, donc j'arrive à faire un texte à trous avec les informations que j'ai pu glaner à droite à gauche, et ensuite bah c'est finalement dans les trous que moi je vais un peu pouvoir écrire et faire ce que j'aime, c'est-à-dire écrire et proposer ensuite à des parlantes et des parlants d'être les voix de ces textes fictifs, finalement, de ces paroles fictives. Et je trouvais ça peut-être, en tout cas intéressant pour moi, de pouvoir invoquer des artistes ayant vécu dans une autre époque pour parler, en fait, de mes conditions, qui sont celles de beaucoup de monde.
C'est-à-dire
Eh ben, on en parle alors. enfin, voilà, quoi, que c'est pas... Enfin, voilà, qu'il y a quelque chose un peu d'une économie qui est toujours un petit peu sur le fil. Et que voilà, enfin que là il y a comme même qui est quand même une sorte de miroir qui se crée sur ce qui on est, ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce qu'on peut faire, et aussi qu'est-ce qui est possible, quoi, avec tout ça. Et que finalement, je veux pas me plaindre. Je pense qu'il y a beaucoup de situations qui sont mais je veux, enfin, c'est pas non plus je sais pas trop quoi.
Mais en tout cas, ton travail, ça devient aussi un endroit où on en parle, justement, de, enfin, en tout cas, c'est évoqué évidemment de manière poétique. Et puis d'ailleurs, dans ton travail, il y a souvent aussi beaucoup d'absurde et de drôlerie, enfin, quelque chose de aussi je trouve ça important que ces questions là elles soient présentes, quoi, dans certaines pratiques d'artistes. On va peut-être, enfin, je sais pas,
c'est un peu, tu vois, enfin, c'est comme il y a des choses, tu vois, qui marque, tu vois, et même si je peux pas, tu vois, développer quelque chose d'assez cohérent, et c'est comme par exemple, tu vois, il y avait l'élection, tu vois, du plus beau modèle, tu vois, de Montparnasse, et donc du coup ça devient des défilés de femmes en sous-vêtements sur des hommes qui jugent, et donc, enfin, quand tu plonges dans l'archive avec ces choses-là, forcément que ça peut aussi faire écho à des choses contemporaines, et voilà, quoi, que ça passe pas, quoi. Et il y a ça, il y a aussi, en fait, nos conditions, en fait, le droit au chômage, à la retraite, à des choses comme ça, au fait qu'en fait, c'est pas rien, en fait, c'est pas pour rien que les artistes, pour certains et certaines, passent de résidence en résidence. C'est parce que aussi, c'est des moyens économiques qui sont là, quoi. Mais ça nécessite, en fait, de toujours être dans l'appel à projet, d'avoir cet appel à projet et aussi de répondre donc, à cet appel à projet, puisque ben, un centre d'art a aussi d'autres... Enfin, on travaille main dans la main, mais entre un ou une artiste et un centre d'art, c'est pas du tout les mêmes travail à faire. Et que parfois... je sais pas, par exemple, moi, il y a une œuvre qui s'appelle La porno aux plantes, je l'ai faite sans personne. Et je pense qu'en fait, j'aurais pas pu la faire en résidence ou trop, en fait. Voilà. Je pense que j'ai besoin, en fait, aussi de ces moments, en fait, aussi de solitude.
Ouais, et puis peut-être de non-production. Parce que
affiché,
c'est vrai que,
ouais.
Parce qu'on est quand même. En tout cas, ouais, est amené à surproduire. Et c'est terrible comment tu vois les moyens qui sont mis sur la production et si peu sur la diffusion. Ça, c'est peut-être plus de l'ordre du spectacle vivant et de la performance. Toi, tu arrives justement, je trouve, à faire vivre tes expositions dans le temps, à leur redonner forme, à en trouver des extensions, des transformations. Ton travail arrive, je trouve, à durer, à se diffuser. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup amené à produire et passer par des appels à projets. Enfin, c'est éreintant et c'est vrai qu'au bout de 10-15 ans, on le sent, il faut le dire.
C'est ça, et puis il y a aussi quelque chose où c'est énorme, c'est cool d'être soutenu à un moment donné, mais on sait aussi que le soutien va peut-être un peu s'effilocher dans le sens où c'est normal, il faut que les subventions aillent aussi à des artistes qui débutent, comme nous c'était le cas à l'époque, etc. Et donc ça veut dire que pour les artistes qui ont 40 ans, comme moi je vais avoir par exemple, du coup on est censé en fait se débrouiller sur les institutions, en tout cas avoir quelque chose, avoir une autre économie. En tout cas, que l'argent public, pour le coup. Ou, en tout cas, faire en sorte que... Je sais pas. D'ailleurs, j'ai pas résolu, donc je sais pas. Mais... et c'est ça, un peu, aussi, qu'elle questionne, cette pièce-là. C'est tout ça, quoi. C'est cette avancée, comme ça. Et voilà, enfin, c'est aussi ce truc, tu vois, de... Moi, avant que j'ai une fille, je prenais jamais de vacances. Jamais. Mais pas un jour, quoi. C'était un peu ce truc, genre, matin, tac, 9h, 19h, atelier, machin, tac, 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 tu veux une pièce dans 10 jours, c'est possible. Mais maintenant, je peux plus, mais heureusement, quoi. Je me dis, mais en fait, il y a aussi quelque chose, en fait, de la perte de joie aussi qui opère à force. Enfin, je veux pas me. C'est un peu ridicule de se dire que je suis interviewé pour parler de mon travail et que je parle de perte de joie.
Mais on est là pour ça. Hein.
Mais franchement, si, hein, je perds la joie. Je perds la joie à faire les choses parce que je vois bien en fait que je m'épuise et que des fois, à force de surproduire, j'ai plus le temps de réfléchir à ce que je suis en train de produire et que finalement, ce truc comme je disais tout à l'heure, d'aller chercher en fait qu'est-ce que c'est que ce texte, qu'est-ce qu'il veut dire, comment je tourne autour, comment soit je lui saute dessus, soit on est bien tous les deux, on va rester côte à côte, on va s'accompagner, ou tout ce que je peux avoir en fait des relations amicales ou amoureuses avec mes textes. C'est un peu très narcissique, je suis dans autre chose et dans finalement d'autres maintenant j'ai plus le temps de faire ça et finalement j'ai plus le temps d'écrire et c'est un peu ouais.
Mais c'est hyper intéressant que t'en parles parce que je pense qu'on est très nombreux et nombreuses en fait à vivre dans ces conditions là
avec l'obligation
de
produire.
C'est ça. Et une sorte d'essoufflement, mais qui n'est pas que dans les corps de métiers artistiques, d'ailleurs, qui est un peu partout. Il y a une sorte d'épuisement général, le nombre de personnes qui font des burn-out. Enfin, je pense que ça va avec un monde qui produit, à perdre haleine.
Après, juste pour préciser, mais je pense qu'il y a carrément... Enfin, voilà, il y a des situations qui sont beaucoup plus précaires que la mienne et que je me dis, il faut aussi ramener les choses dans un contexte politique qui est lourd en ce moment et qui, en fait, où je me dis, je peux quand même pas, en fait. Enfin voilà, il y a quelque chose peut-être. Des fois, j'ai le syndrome un peu de me dire, putain, mais Anne, t'es vraiment une princesse, quoi. T'imagines, tu vois, voilà, t'es là, tu parles de ton travail à la radio et tu te plains, quoi, en plus. C'est fou, quoi.
Ouais, mais ce que l'artiste il doit sortir de lui, c'est assez précieux et c'est, je sais pas.
Bah, enfin, ça, c'est complexe. Hein, c'est un débat dans le sens, tu vois, où il y a. Je sais pas. Donc, du coup, j'ai ce truc un peu, tu vois, de me dire, genre, ouais, mais t'es vraiment une princesse, quoi. Hein. C'est fou, hein.
Ah, la culpabilité, on l'aime. En tout cas, on va écouter un petit extrait donc des volontaires pigments médicaments avec la voix de Martin Vaquero.
Je gère, j'assure, tu vois, j'assure, tac, ouais, j'assure,
toss,
yes,
tac, 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 paf.
Yeah, j'assure. J'assure sans futur, sans assurance, sans contrat, moi.
Pam, pam.
J'assure sans gage, sans contrepartie, sans sécurité, sans garantie. J'assure.
Ouais.
Tic. J'assure sans droit au chômage, moi. J'assure sans qu'on couvre mes risques au travail. J'assure.
Arrête-toi.
J'assure sans penser à demain. J'assure jusqu'à la minute 180. J'assure.
Bam.
Ouais, ouais, ouais. Pendant 180 minutes, j'assure. J'assure le show d'une vacataire. Le show d'une vacataire posée sur un plan stable et équilibré. Comme une pomme.
Yes.
Ouais, comme une pomme ou comme une poire. Ou comme une figue aussi. Un abricot tout chaud. J'assure grave, j'assure.
Yeah.
J'assure.
Arrête-toi.
Bessie Davidson. Vive le multi-emploi, celui où il faut quatre bras, deux en haut et deux en bas. Je suis une artiste tétrapode, mieux qu'un caméléon. Look at me, j'assure, j'assure. Jean Cocteau.
Si je me fais mal, on fera des croquis de moi, même en train de faire pipi la nuit. Oui, j'assure, on moulera chacune de mes parties. Et quoi de plus facile quand quelqu'un ne peut pas bouger, oui, que de le décalquer. I am an art model, oui, j'assure.
J'assure.
Joséphine Baker. J'assure sans penser à demain. Apparemment, j'assure. Et point.
J'assure.
J'assure.
Voilà, un extrait, donc, les volontaires pigments médicaments. Et à présent, on va revenir à ta voix par ce passage, donc par la voix des autres et aussi par des questions sociales et politiques liées au travail dans le monde de l'art et le monde du travail en général, avec les collectifs des professionnels de la voix qu'on a évoqués auparavant, avec Pornoplante, donc que tu as évoqué avant, hein, donc apparemment une pièce que tu as fait dans ta cabane. Et qui reprend les codes de l'ASMR et du porno audio pour proposer la métamorphose de quelqu'un dont le sexe se conduit comme une plante. Mmh. Et justement, là, c'est ta propre voix qui dit ce texte. Et on sent tout le plaisir, parce que c'est quand même un texte érotique, tout le plaisir qu'il y a à le dire. Donc, quel rapport t'as à ta propre voix là-dedans? Et comment t'as choisi que ça serait l'enregistrement et peut-être pas, par exemple, la performance? Comment t'as opéré ce choix entre voix enregistrée et voix live?
Bah, c'est encore un peu en jeu, quoi. Ça, c'est encore des choses où je suis quand même pas OK. Mais pour revenir sur la Pornoplante, c'est faux ce que j'ai dit avant, comme quoi elle n'avait pas été produite en résidence. C'est pas vrai, elle était produite en résidence à la Bergerie nationale de Rambouillet.
Décidément. Et c'est bien, tu oublies que c'est produit en résidence, c'est bon signe.
Ouais.
Mais c'est une bergerie. C'est pas les autres résidents.
Et c'était. C'était le confinement. Et donc, confinement, je reçois les mails comme quoi ça ferme, ça. Voilà, il n'y a plus. Et puis, il n'y aura peut-être pas après. Bon. Et donc, du coup, je suis là en résidence. Puis c'était que. Voilà. À la Bergerie nationale de Rambouillet. Bon, c'était le deuxième confinement, je crois. Et je me mets à écrire en me disant, bon, bah, puisqu'il n'y a plus rien, voilà, je prends mon ordi et j'écris. Et je savais pas trop, en fait, ce que j'allais écrire, j'ai juste écrit. Et en 3 jours, en fait, j'ai écrit La porno aux plantes. Et ça faisait peut-être des années que j'avais pas écrit sans un truc qui lâche. Mmh. Vraiment un truc où je me dis, je sais pas. Sans ce truc un peu de, je sais où je vais aller. Et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou parce que j'ai aussi vu toute la richesse de ce texte que, pour moi en tout cas, je sais pas pour les autres, mais pour moi, je continue à prendre du plaisir à écouter La porno aux plantes, chapitres 1, 2 et 3. Et voilà. Et donc c'était vraiment, et donc c'est le travail en fait de la mise en voix de ce texte-là, c'était aussi de participer au plaisir en fait de cet audio porno qui disait pas trop son nom à l'époque, où je tournais un peu autour parce que aussi je m'étais pas renseigné sur qu'est-ce que c'était que l'audio porno, enfin l'industrie que c'était, mais aussi l'histoire que ça, et du coup si je voulais en faire partie, pas en partie, etc. Alors du coup c'était pas mal ce truc du confinement parce que pour le coup ça m'a évité en fait de me lancer trop vite. Et j'ai enregistré comme ça, dans ma chambre, tranquille, voilà, en m'amusant beaucoup. J'ai pris du temps pour cette pièce sonore, plusieurs semaines, ce qui est rare. Enfin, d'habitude, je fais le montage, les gros montages, je les fais en un mois, les gros. Et c'est un mois de tunnel où je dors plus, où, voilà. Mais là, vraiment, j'avais le temps, c'était bien. J'ai trouvé plein de trucs. J'aurais jamais fait cette composition-là avant. Voilà, ça m'a fait plaisir. Et c'est drôle parce que c'est la pièce qu'on me demande le plus au prêt, par exemple. C'est intéressant, en tout cas, cette soif de cette porno plante, enfin, et en tout cas, enfin, peut-être pas de cette porno plante là, mais en tout cas de réancrer nos corps autrement et par l'écoute, en tout cas, dans des centres d'art. Et donc oui, donc à l'intérieur de cette pièce, donc la porno plante, c'est donc l'histoire de quelqu'un qui a le sexe qui se comporte comme une plante, donc elle va pousser avec le soleil, elle va tomber à l'automne, il va y avoir une errance, et ensuite dans le chapitre 2, il y a une sorte de quête qui se met en place, une sorte de chant, une sorte de brame aussi un peu sur ce sexe qui tarde à apparaître, où le printemps tarde, et ensuite dans le chapitre 3, il y a aussi d'autres choses qui se passent, voilà. Et récemment, j'en ai fait de ce travail-là des morsures sonores. Et ça, c'est vraiment un truc qui me tient un peu à cœur en ce moment. Et aussi, qui m'a réveillé aussi un peu. Où des fois, j'étais dans des automatismes de production où je connais. J'essaie de connaître les étapes de production de mes pièces. Sauf que là, il y a donc Olivier Michel de La Pop qui est donc une péniche et un lieu d'art culturel à Paris.
Dont on parle souvent ici. Voilà. Beaucoup d'artistes sont passés par La Pop, ont des projets avec La Pop. C'est un lieu important de soutien aux artistes.
Et donc Olivier est venu vers moi en me disant j'ai écouté La Porno Planche, je trouve ça super, j'aimerais beaucoup l'exposer à la péniche. Et je dis, bah oui. Et il me dit, seulement, il y a beaucoup de mineurs, de personnes mineures. Et je dis, c'est peut-être pas la meilleure pièce pour ça, mais on va travailler. Et donc, la péniche, c'est une péniche sur la scène. Et donc, du coup, j'étais partie sur une idée de traduire la porno plante pour des mineurs. Comment je traduis cette pièce-là pour des moins de 18 ans, en tout cas. Et donc un monde s'ouvre à moi là, et parce que entre le quelqu'un qui a 2 ans et quelqu'un qui a 17 ans et demi, il faut qu'il y ait un langage commun en tout cas dans ce créneau en fait de l'âge, et qui m'a aussi intéressé pour le coup. Et ensuite il y avait cette idée de la diffusion, comment diffuser de manière safe du porno quand il y a des mineurs dans le même espace, pour le coup. Et c'est là où j'ai repensé à cette pièce de Laurie Anderson avec The Infant Table, où voilà, donc c'est la conduction osseuse, où on va en fait placer nos coudes sur des endroits précis d'une table, et ensuite on met les mains sur les oreilles et on entend le son parce que le son passe par les os. C'est de ça peut passer par les os, par du solide, quoi, de toute manière. Et petit à petit, j'en viens à farfouiller dans mon atelier, à sortir un peu des machines que j'ai ou quoi, et ensuite à mordre dans tout ce que je peux, en mettant en contact avec le son, du bois, du métal, du plastique, des machins, et savoir en fait qu'est-ce qui monte finalement en fait. Comment est-ce que cette sève qu'est la pornoplante va monter dans la bouche, pour le coup. Alors, voilà, le plastique, ça marche pas, par exemple. Et petit à petit, j'en viens à créer des sculptures à mordre. Donc, il y a deux sculptures dans une exposition qui s'appelle Racine Pistil, qui date de l'année de juin.
Juin 2024.
Ouais.
Ouais, c'était en juin dernier.
Et donc, il y a une sculpture porno-plante, une sculpture soft-plante. Voilà. Et donc, les spectateurs sont invités à venir casser une petite brindille. Il y avait des brindilles disposées pour les spectateurs. Et ensuite, à emmancher la brindille dans la sculpture sonore et à mordre la sculpture. Et à entendre comme ça, de cette manière-là. Et ce principe, en fait, de la morsure m'intéresse pour plein d'autres raisons. Pour le coup, parce qu'en fait, quand les spectateurs mordent, ils me font confiance, et ça m'intéresse, ça, parce que je suis pas censé les empoisonner, et donc du coup, je suis responsable de qu'est-ce qu'ils mordent, quel acier mordent, quel bois ils mordent. Est-ce que il faut que je me renseigne à fond, en tout cas, pour être sûr que tout soit ok. Et que c'est des projets qui seront finalement, en fait, qui se font sur plusieurs années même, je pense, si je veux vraiment continuer là-dedans. Et qu'il y a aussi il y avait un protocole où les spectateurs étaient avertis du caractère de la pièce avant de mordre. Comme là, on passe quand même par une écoute qui n'est pas une écoute classique et que finalement, c'est une écoute qui pénètre le corps, par la bouche en plus. Et ben que voilà, qu'on passe à une écoute consentie, pour le coup. Et que ces notions, en fait, à l'intérieur de ce projet-là, m'intéressent, l'écoute consentie, la confiance que les spectateurs m'accordent quand ils écoutent une de mes pièces. Voilà, c'est des choses sur lesquelles je continue à travailler pour d'autres projets. Voilà.
C'est intéressant cette question de l'écoute consentie quand on fait de l'art sonore, parce que souvent, les pièces sonores, quand on les diffuse dans des centres d'art, ça devient de la torture presque pour le personnel des centres d'art. Et c'est vrai que c'est une vraie question de l'écoute consentie, parce que comme dit Pascal Quignard, les oreilles n'ont pas de paupières. Donc c'est une vraie question, c'est vrai, en tant qu'artiste sonore. En tout cas, cette pièce à la pop était très intéressante, ouais, sur le mode d'écoute. Et on va écouter justement Porno-plante.
Plonk, 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 plonk. Alors voilà, ça arrivait ce mercredi après-midi.
No stress.
J'ai décidé de me mettre bien. No stress. Je me suis pris un cocktail. Je me suis mise sur la chaise longue en plastique blanc. J'ai déboutonné mon jean, je l'ai fait valdinguer. Je me suis calée sur la terrasse dans le jardin. J'ai écarté les jambes et j'ai tendu le cul vers le sud tout l'après-midi. Ça tapait fort et je transpirais, ça coulait, et je crois que c'est là que ma race est faite.
Et qu'est-ce que t'as fait?
Oui, la sueur a creusé mon bassin comme de la roche. J'ai eu une raie, et donc donc j'ai pu encore plus écarter.
Voilà, un petit peu de... toum, toum, touloulou, un petit peu de porno plante. Eh bien, on arrive vers la fin de l'émission. Et à la fin de l'émission, on invite toujours les invités à nous faire découvrir les œuvres d'un ou d'une autre vocaliste. Et tu as fait le choix aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a tout un rapport dans ton travail, la poésie sonore. Et tu as fait le choix aujourd'hui de nous lire un extrait de Pan de Christophe Tarkos.
Alors, je vais essayer.
Tu vas essayer.
Il y a aussi une des raisons pourquoi j'invite des parlantes et des parlantes à trouver une voix au texte. C'est parce qu'aussi, ma voix est catastrophique.
Oh.
Non, mais dans le sens où je lis trop mal, quoi. Et que ça m'embête, en fait.
On vient d'écouter Porno Plante, quand même, Anne. C'est quand même... Tu viens nous dire, t'avais une... tu dis tout et son contraire, là.
Ouais, t'as vu, hein. C'est mon côté princesse.
Ça doit être ça.
Alors, Christophe Tarkos, Pan, aux éditions POL. Puis-je te demander de bien vouloir te déplacer de quelques millimètres ? J'aurais aimé, si cela t'était possible, que tu te déplaces de quelques centimètres, et cela afin que je puisse me libérer entièrement. J'aurais aimé te demander, sans te manquer de respect et sans paraître insistant, que tu te déplaces très légèrement en avant pour que je puisse m'en aller et que nous n'en parlions plus. Je croyais qu'il aurait été préférable pour nous deux que nous nous séparions. Si tu le voulais bien, il aurait suffi pour cela que tu veuilles bien te mouvoir d'un rien de quelques millimètres. Ainsi, tout aurait été fini. Je ne t'aurais plus demandé alors de te déplacer, car seuls quelques millimètres auraient suffi pour que tu lâches mon pied coincé et ainsi ma tête, et aussi ma tête tout aussi bloquée. Si tu pouvais le voir, pouvais-tu le voir? Seulement, j'aurais seulement voulu te demander de te pousser de quelques centimètres, si ce n'était pas trop te demander. J'aurais fait un effort, je te l'aurais demandé en articulant distinctement chacun des mots de ma demande. N'entends pas une colère. Tu ne pouvais pas dire que ce n'était pas audible ou que les phrases s'enfouissaient dans un énervement étouffé. C'était avec contrôle et distinctement que je te demandais de bien vouloir te pousser. Entends, ce n'était pas le cri d'une bête porcine. Entends, ce n'était pas le hurlement d'une épouvantée. Je te demandais avec le plus grand calme, en articulant posément chaque son de chaque syllabe, de chaque mot que comporte une demande d'une grande simplicité, que tu pouvais comprendre comme étant une simple demande parfaitement audible et neutre. Je ne délirais pas, ce n'était pas un ordre, ce n'était pas un cri, j'épelais, c'est moi qui te parlais et qui te demandais, pour moi, de te déplacer, si cela n'était possible, de quelques millimètres, et je n'avais pas honte de te le demander de façon polie. Je pensais avoir conscience d'un certain nombre de choses, en plus des choses faites et des choses établies. Je ne remets pas en cause leur établissement et leur installation, mais en plus, je ne le mets pas en doute. Mais de là où je te parle, que je ne mets pas en doute, qui n'est pas un plus mauvais endroit qu'un autre, en plus de ce qui, c'est bien ainsi, est bien connu que vous comme de moi, que je ne voudrais changer. Je ne le mets pas en cause. Je dis en plus de ces choses, je peux me retrouver, voir ce qu'il y a derrière moi. En me retournant, j'ai la possibilité de me retourner, non de regarder le ciel, non de regarder le lever du soleil, pour qu'il me donne le courage de repartir. Toi, tu ne le voyais pas, mais je clignais des paupières, des minuscules muscles de mon visage, pendant que je te regardais et que je me taisais. Tu croyais que j'étais un corps mort, pendant que je me métamorphosais, que je me riais de toi en te faisant des grimaces, en clignant des muscles minuscules, les épaules, le cou, la bouche et le front et les paupières. C'était autant de grimaces de maudissage que je t'envoyais. Tu ne savais pas le nombre de malédictions et de moqueries qui pleuvaient ainsi sur toi en autant de signes que je me représentais très bien. C'est moi qui les faisais, que j'éparpillais parmi tous les minuscules muscles des deux côtés de mon cou et du front et des épaules et des yeux. Tu ne pouvais pas suivre, ça allait trop vite, de façon si minime et si subtile et si rythmée. Et tu n'y voyais goutte pendant tout le temps où pourtant je me concentrais sur les clignements de mes paupières et les déplacements des différentes gelées et des nombreux cartilages qui me faisaient rire, qui me faisaient jouer, qui me faisaient dessiner une flopée de craquements maudits. C'étaient des malédictions envoyées à ton ignorance et à ta grande bêtise. Parmi toutes les possibilités qui se présentaient à moi, elles étaient nombreuses de faire défiler le langage intérieur des petits muscles crispés d'un quart de seconde, chacun en rythme d'un côté et de l'autre, en te perdant, en changeant de rythme, en expérimentant de nouvelles formes magiques, secrètes, chorégraphiques. Je ne t'étouffais pas. Ou étouffais-je ? J'avais... Oula, je ne sais plus.
Bah, merci beaucoup. C'est vrai que c'est... Tarcos, c'est sportif.
Ouais, ouais. C'est dur, c'est dur.
Et pourquoi avoir fait... Ouais,
ouais, ouais. Très beau.
Ouais,
bah... ouais, Tarcos, ouais.
Tarcos, c'est Tarcos.
Ouais,
c'est...
Non, mais ta voix aussi, dedans. Ta voix aussi, je trouve. Contrairement à ce que tu nous dis.
Ouais, c'est... je... J'ai pas trop merdé.
Et pourquoi avoir choisi cet extrait-là de Pan ?
Ça s'appelle Le Nez. Et c'est parce que donc, dans cet extrait, donc, on a l'impression, enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a, il y a quelque chose en fait, de la relation amoureuse entre eux. Donc, c'est quelqu'un, donc Christophe Tarcox, qui demande à, on a l'impression à quelqu'un d'autre de se déplacer quelques millimètres pour pouvoir un peu avancer, pour avoir un peu d'air, de l'espace, du temps, etc. Et que finalement, il demande simplement à une tumeur dans le cerveau qu'il a de se déplacer pour être opéré. C'est ça, en fait. Et c'est cette. C'est ça, en fait, Christophe Tarcox. C'était à la fois, c'est. Cette extrême douceur. Tu vois, dans sa biographie, Christophe Tarcos, il dit « Je suis gentil
».
Et je me suis dit « Waouh, j'aimerais tellement écrire ça. J'aimerais tellement dire « Je suis gentil » dans ma biographie. C'est vrai, c'est vraiment un truc où j'aimerais bien le dire. Et donc, du coup, voilà, donc c'est Christophe Tarcos. Et en même temps, voilà, c'est un texte qui me touche beaucoup. Et parce que... parce qu'on sent en fait aussi une forme d'essence humaine à l'intérieur de ce texte-là, une forme de supplication, un rythme magique et en même temps une quelque chose de drôle comme ses textes à lui, voilà. Et quelque chose un peu du poids de la vie qui est très ancré et dont il a très conscience, qui me touche beaucoup.
Bah, merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup, Anne, pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de t'avoir comme invitée. Et donc, dans l'agenda qui arrive pour toi, il y a Tactical Spectres, une exposition collective à la Ferme du Buisson qui se tiendra du 16 mars au 13 juillet prochain. Bien, merci encore.
Merci.
Merci à vous deux pour votre invitation, pour vos mots bienveillants, pour le petit café qu'on a pris tout à l'heure ensemble, pour les mails, pour les coups de fil à Violaine ensemble, pour votre bienveillance et merci à la Radio Dieu pour son accueil et voilà.
Et merci à la vie. Eh bien, à bientôt pour le prochain épisode de Zone Vocale.